Méditons ensemble un récit de circonstances. C'est le récit que j'appellerais volontiers de l'attente ou de l'entre-deux. Jésus vient de quitter les apôtres, il est monté au ciel et le Saint-Esprit n'a toujours pas été donné. Il leur a été pourtant promis, ce Saint-Esprit, mais il n'est pas là encore. Les apôtres sont donc en attente de la suite. Et quand on attend, c'est souvent le moment de revenir sur des événements qui se sont passés trop vite, car d'autres, peut-être plus intenses, les ont trop rapidement éclipsés. Les apôtres sont dans ce cas, et cet événement a un nom, Judas, ou plus exactement, la perte de Judas, qui est un des leurs. Lisons donc Actes, chapitre 1, versets 12 à 26. C'est la première fois depuis la résurrection et après l'ascension de Jésus que le texte nous reparle de Judas. Et c'est Pierre qui en reparle alors qu'ils se retrouvent tous dans la chambre haute. Ils sont tous en prière, attendant le Saint-Esprit promis. Il n'y a pas seulement les 11 apôtres, mais aussi des femmes. En tout, ils sont plus de 120, vous l'avez entendu dans le texte. Là, au milieu des frères, Pierre se lève et adresse à cette assemblée une parole. C'est la première prédication de l'histoire de la chrétienté. Et elle est faite là, dans la chambre haute. C'est une parole qui surgit au milieu des frères, de la même manière que Jésus a surgi plusieurs fois au milieu des 11 après la résurrection dans cette même chambre haute, c'est rapporté dans l'évangile de Jean. Là, ce n'est pas Jésus qui surgit, mais Pierre qui se lève, portant une parole. Et comme je l'ai dit au début, Pierre parle de Judas. En fait, pour les apôtres, il s'agit de faire le deuil de celui qui est parti dans son lieu, comme le dit la communauté dans sa prière finale au verset 25. Faire le deuil de Judas. Comment ? N'a-t-il pas trahi le maître, lui ? Pourquoi en faire le deuil ? Son sort est bien mérité. Eh bien non. La première prédication de l'ère de la chrétienté va à celui qui a trahi, qui a livré le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et il faut en faire le deuil pour être disponible au baptême du Saint-Esprit. Excusez du peu. Faire le deuil de Judas n'est donc pas un détail, une chose que nous pourrions allègrement oublier et nous tourner tout de suite vers ce temps de l'Esprit-Saint. Faire le deuil de Judas est donc nécessaire. On pourrait même dire capital. Et dans ce récit, les apôtres font un double deuil. Le premier est de faire le deuil qu'on ne peut pas vendre l'apostolat reçu du Seigneur sans en même temps détruire le corps du Seigneur. Le deuxième deuil est de faire le deuil de la toute-puissance. Regardons le premier deuil. On ne peut pas vendre l'apostolat reçu du Seigneur sans en même temps détruire le corps du Seigneur. Pour cela, je vous propose de revenir au texte, et en particulier à la prière de la fin que la communauté fait au Seigneur pour qu'il désigne par le sort lequel de Barsabas ou Matthias remplacera Judas. C'est au verset 24 et 25. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Littéralement, on pourrait traduire « afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat » par « afin qu'il hérite du lieu de ce ministère et de cet apostolat. Vous avez bien entendu, du lieu du ministère et de l'apostolat. C'est en grec topos, qui a donné en français topographie. Comme les traducteurs n'ont pas bien compris cette association entre lieu et apostolat en français, cela a été traduit par avoir part à l'apostolat. Mais littéralement, c'est un lieu. Pourquoi ce détail est-il important? C'est pour que le lecteur soit capable de lier le lieu du ministère et de l'apostolat avec son lieu de la fin de la prière. La prière finale nous révèle que Judas a changé de lieu. Il est passé du lieu de l'apostolat à un lieu qui est à lui, son lieu. Mais comment Judas a-t-il fait pour changer ainsi de lieu? En fait, c'est très simple. Il a vendu l'un pour acheter l'autre. Or, Pierre nous apprend que le lieu de l'apostolat, le lieu que Judas a vendu, est en fait un don fait par Jésus le Maître, un héritage comme on hériterait d'une maison ou d'un champ. Verset 17. Il était compté parmi nous et il avait reçu par le sort un lot de ce ministère. Il avait reçu par le sort un lot de ce ministère. Judas vend le lieu de son apostolat en vendant le maître lui-même. Il achète avec cet argent un lieu à lui, son lieu. Pierre dit cela au verset 18. Cet homme a acquis un champ avec le salaire du crime. Son lieu n'est pas autre chose que le champ acquis avec le salaire du crime. Et qu'est-ce donc que le salaire du crime? Mais bien sûr, la vente pour 30 pièces d'argent du maître. En fait, le problème de Judas est d'avoir fait du don reçu une monnaie d'échange, d'être passé du lieu du don au lieu de l'échange, de s'être servi du don à son profit. Pour le dire autrement, Judas, en faisant cela, fait du don reçu sa chose. Voilà donc le premier deuil à faire pour les 11. Ne pas faire de l'apostolat qu'ils ont reçu leur chose. Ne pas faire de l'Église qui va naître une chose leur appartenant, une chose dont ils pourraient disposer à leur profit. L'Église ne leur appartiendra jamais, fussent-ils apôtres, pasteurs, anciens, évêques, papes ou rois. Toute responsabilité que nous prenons dans l'Église est un don, un héritage qui nous a été donné du Seigneur. Elle s'appelle, ces responsabilités, pasteur, conseiller, musicien, chanteur, et on en a dans notre assemblée, introducteur. Ne vendons pas cet héritage pour en faire notre lieu à nous. Pour être plus clair encore, ne faisons pas de l'Église notre chose. Voilà le premier deuil à faire pour les apôtres avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous me direz, bon, on est d'accord, mais pourquoi ne faut-il pas faire de l'Église notre chose, après tout, mis à part que c'est pas bien, quand même? Quel est le problème réel qui se pose? Et là encore, revenons au texte, verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé en avant, s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Voilà ce qui s'est passé quand Judas a fait du don de son apostolat une monnaie d'échange. Toutes ses entrailles se sont répandues. Je vais vous le dire autrement. Le corps s'est disloqué. Judas, en recevant cet héritage, fait partie du corps de l'Église naissante. En vendant son héritage, ses entrailles se répandent. Mais c'est du coup une partie du corps de l'Église qui se disloque. Quand on fait du don reçu une monnaie d'échange, le corps du Christ se disloque. C'est sûr, cela reste une belle organisation, mais ce n'est plus le corps du Christ. Et côté dislocation du corps du Christ, en ce moment, on est servi. Cette dislocation est mondiale, générale. Qu'est-il donc en train de se passer? Posons-nous deux questions. N'aurions-nous pas vendu notre héritage pour faire du corps du Seigneur notre affaire, notre chose? Et la deuxième question, et si le corps du Seigneur n'était pas là où on croyait? Et s'il n'était pas là où on croyait, où serait-il donc? Vous le voyez, ce récit de Judas n'a donc rien d'anecdotique. C'est vrai à un tel point qu'il est passé dans la langue des habitants de Jérusalem. En effet, le lieu acheté avec l'argent de Judas sera tellement connu des habitants de Jérusalem qu'ils vont lui donner un nom dans leur langue, Akeldama, verset 19. Donner un nom, c'est faire exister. Faire exister, c'est mieux identifier ce forfait, c'est pouvoir le dénoncer, mais aussi et surtout s'en repentir quand on y tombe. Venons-en maintenant au deuxième deuil, tout aussi important que le premier, le deuil de la toute-puissance. Ce deuil-là va se faire en remplaçant Judas par un petit nouveau, Matthias, vous l'avez entendu. Pour comprendre cela, il faut revenir au moment où sur la montagne, Jésus envoie les apôtres à faire de toutes les nations des disciples. Ce sont les dernières paroles de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Combien sont-ils quand les apôtres entendent cela, quand Jésus s'élève au ciel sous leurs yeux? Combien sont-ils? Ils sont 11. Dans leur tête, c'est clair. Cette mission de faire de toutes les nations des disciples va devoir se faire à 11, les rescapés de la première heure. En plus, Jésus, après sa résurrection et avant son ascension, ne désigne aucun successeur à Judas. Quand le maître s'en va, c'est bien sûr aux 11 qu'il délègue toute sa puissance, pas aux 12. C'est tellement évident pour Pierre, que Pierre va devoir invoquer les Écritures pour qu'un successeur à Judas soit nommé. Là, Pierre se fait modeler par les Écritures, une parole extérieure à lui, qui vient des psaumes, psaume 109, verset 8. Qu'un autre prenne sa charge, la charge de Judas, bien sûr. Cette nomination de Matthias empêche que les 11 deviennent un club, une instance intouchable, toute puissante. Les 11 seront en fait 11 plus 1, c'est-à-dire 12. Cette nomination montre que la charge apostolique de Judas ne peut être prise par les autres. C'est étonnant. Elle montre aussi qu'au moment où Jésus dit aux 11 d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il le dit aux 12. Matthias, déjà compris. Le 11 de départ va devoir donc composer avec un 12e homme nécessaire, mais inconnu. Chers frères et sœurs, quel est ce 12e homme ou cette 12e femme inconnue, mais nécessaire dans nos organisations d'Église pour empêcher que nos organisations ne se croient toutes puissantes? Car bien sûr, nos Églises doivent aussi faire le deuil de la toute-puissance. Comment vivre avec cet ordre de faire de toutes les nations des disciples sans se croire investi de la toute-puissance divine alors que Jésus est parti? C'est un humain désigné par le sort qui déjoue la toute-puissance des 11. On ne sait pas grand-chose de Matthias. La Bible n'en parlera d'ailleurs jamais plus. Il n'a qu'un seul nom et a accompagné les apôtres. C'est maigre. Quel est ce 12e homme? Quel est cette 12e femme dans nos églises? Vous avez compris, l'Église doit en permanence être en recherche de ce fameux 12e. Considérez que l'organisation ne sera jamais complète, que le 12e manquera toujours et qu'il est toujours à chercher et à trouver, car on le trouve. Ce 12e est certainement multivisage. Pas une seule et même personne. Elle est tantôt homme, tantôt femme, tantôt jeune, tantôt vieux, tantôt riche, souvent pauvre, à l'image de l'identité de Matthias. Pour le trouver, un seul et unique moyen, la prière. C'est ce que fait la communauté des 120 avec les 11, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. C'est encore dans la prière qu'il demande à Dieu de diriger le sort. La prière, oui, mais pas une prière incantatoire ou talisman qui permettrait à l'organisation de reprendre le pouvoir. Non, c'est une prière de dépouillement où il s'agit en premier lieu de dépouiller la prière de son « moi » ou du « nous » de la communauté et la centrer sur le « toi », celui du Seigneur. Verset 24. Et ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous. Chers amis, avant d'être baptisés de l'Esprit Saint, faisons dans le secret de nos cœurs et dans le secret de notre communauté le double deuil de Judas. Ce double deuil qu'ont fait aussi les apôtres. Et préparons-nous sereinement et plein de joie à la venue de l'Esprit Saint. Alléluia !